Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La question du frère, est-ce que ça aide les coups pendant la ruqya? Alors tout dépend. De façon générale, pour moi, non. Mais ça peut être utile parfois. Ça peut être utile dans le cas de la possession, quand il y a un djinn qui réagit, on commence à réciter, que la personne réagit violemment et que le djinn essaye de s'imposer par la force. C'est-à-dire qu'il va essayer d'intimider en criant, en frappant, ou là, il y a vraiment un rapport de force. Dans ce cas-là, un ou deux coups, pour vraiment, entre guillemets, reprendre la main sur la situation, ou faire comprendre au djinn qu'on est présent et qu'on fait face en fait, au rapport de force, ça peut être utile. Ça m'arrive de le faire, et je pense que c'est utile dans ce cadre-là. Mais en dehors, d'utiliser les coups pour comme moyen de soigner, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur d'abord parce que ça marque ou ça peut traumatiser les patientes, parce que la majorité des patients, c'est des patientes. Hein. On a quasiment 80% de femmes qui sont touchées par la sorcellerie et 20% d'hommes. Donc il y a beaucoup de personnes que ça a traumatisé, soit de personnes qui sont traitées directement, ou alors par des proches des patients qui voient leurs proches se faire frapper et avec les cris que ça implique. Même si c'est le djinn qui ressent majoritairement, les gens qui sont présents, ils font pas eux la distinction entre un cri de la part du djinn et un cri de la part de la personne, de la patiente. Donc ça peut marquer les esprits, ça peut traumatiser. Et j'ai vu beaucoup de monde qui sont traumatisés par ça. Donc ça déjà c'est un mal important qui justifie à lui tout seul le fait d'arrêter les coups. Et surtout c'est le piège du toujours plus. C'est-à-dire que la personne elle va commencer au début mettre quelques coups et ensuite elle va considérer que c'est efficace. Donc elle va augmenter la dose, elle va augmenter. Jusqu'à arriver à un stade où elle ne peut plus faire sans. Et ça, c'est vraiment un des grands pièges qui arrive avec les coups, qui arrive aussi avec l'eau coranisée, qui arrive avec les cris, avec les haut-parleurs. Par exemple, une personne qui a l'habitude de faire l'okaya en criant, il va crier les versets coraniques qu'il va réciter. Et il va arriver à un niveau où ça rentre dans la croyance. C'est-à-dire que pour lui, même sans en avoir conscience, il a la conviction que c'est son cri qui soigne. C'est plus le Coran. Ou alors que c'est son coup qui soigne. Le coup qu'il va mettre au djinn, c'est ça qui va soigner. C'est plus un moyen qui aide à soigner, ça devient le moyen de soigner. Et donc quand on arrive à ce niveau dans la croyance, concrètement, on va dévaloriser la parole d'Allah et cette base-là. C'est-à-dire que la présence d'Allah Azzawajal, elle devient quasiment secondaire. Et c'est les coups ou l'eau coranisée ou le cri ou le haut-parleur qui va être le moyen et tout le reste va passer de façon secondaire. Et donc je pense que ça c'est un gros problème de croyance. Et parce que ça touche au lien avec Allah et ça touche vraiment à la base de la croyance, de la foi même de la personne, en dehors du soin. Donc il y en a qui vont plus ou moins loin et qui le formulent. Quand on arrive à dire, il n'y a que moi qui peux guérir parce que moi j'utilise ça, ça touche à la foi directement et vaut mieux que cette personne elle préserve sa foi en arrêtant de soigner les gens. Parce que d'un côté, elle va induire en erreur des patientes et d'un autre côté, elle se fait du mal à elle-même parce que ça touche à la foi et ça touche à la croyance. Donc, de façon générale, je déconseille, sauf quelques cas isolés où ça peut être utile, avec un usage modéré, vraiment très très modéré. Après, c'est vrai qu'il existe, il y a un savant qui est connu, qui a ces paroles-là, qui a conseillé, il est rapporté de lui qu'il frappait pour soigner. C'est pas une référence. Et il faut voir sa parole, dans quel sens il l'a dit. Parce qu'elle n'est pas dans le sens comprise. C'est-à-dire comment on la rapporte, c'est pas ce que lui il a dit et c'est pas le contexte. J'ai pas envie de citer parce que ça peut alimenter des personnes qui vont aller vers ces avis-là. Mais de façon plus générale, il faut prendre la parole dans son contexte, avec tous les éléments qui l'entourent, pour pouvoir bien la comprendre et bien la transmettre et bien la mettre en pratique. Mais de façon générale, il vaut mieux éviter et de se concentrer vraiment sur la parole d'Allah. C'est ça la base du soin. C'est ça qui a été transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé. C'est ça qu'il a validé quand le compagnon récite Al-Fatiha et qui soigne un chef de tribu qui est touché, qui a été blessé. Il se base uniquement sur du Coran et c'est ce qui est rapporté dans toutes nos sources. Donc c'est ça le travail qu'on doit faire. C'est de travailler notre intention et la méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a léguée pour que la méthode elle corresponde à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que dans notre intention, on ait la conviction forte que la parole d'Allah, elle suffit. Et qu'on ne doit pas rajouter autre chose avec la parole d'Allah comme condition pour que ça guérisse. Donc, utiliser des choses, oui. On peut utiliser je sais pas, une personne qui a mal aux yeux, on va lui mettre du sérum physiologique coranisé dans les yeux. Ou alors, on va lui verser de l'eau sur elle. Mais ça doit être secondaire. Ce n'est pas au même niveau que le Coran et ce n'est pas, surtout pas devant le Coran comme méthode. Donc c'est des ordres de grandeur à bien garder à l'esprit pour vraiment préserver son intention et avoir un soin bi-idhnillah efficace. Wa barakallahu fikum.